Alléluia. Ce soir, je vais vous inviter à lire un passage qui se trouve dans l'évangile de Luc. Je vous avais annoncé qu'on lirait un texte de circonstance. Et ce texte se trouve en Luc. Le but ce soir, pardonnez-moi de parler vulgairement, c'est le mot qui me... C'est pas d'exploiter le filon ou de rajouter du blabla à tout le blabla qui se fait déjà sur les circonstances. Le but n'est pas non plus de minimiser la douleur de ce qui s'est passé. Mais l'intérêt, c'est de réfléchir aux événements tels que Jésus lui-même nous invite à y réfléchir. C'est ça l'intérêt. C'est pas de rajouter un pamphlet à tout ce qui se dit, il faut s'aimer, l'islam c'est pas ça. L'islam c'est ça, et bien sûr que tout le monde faut s'aimer, et quelque part, est-ce qu'on a vraiment besoin que ce soit les gens croyants qui disent aux gens qu'il faut s'aimer? L'amour c'est que du bon sens. Respecter son prochain n'a pas besoin d'être converti pour ça, il n'y a pas besoin de Dieu pour ça. Normalement, c'est juste du bon sens. Mais effectivement, normalement, la parole de Dieu devrait nous amener à un peu plus. L'intérêt de connaître la parole de Dieu, c'est pas de connaître des discours, des blabla, mais toi, Jésus, tu as peut-être une parole qui donne un éclaircissement différent aux événements. Jésus nous a dit ce qu'il y avait à faire dans de telles circonstances. Et c'est dans Luc chapitre 13... Un texte qui est très particulier parce que c'est exactement ce qui s'est passé ces dernières semaines. On lit tout, mais après on remet dans le contexte. Luc chapitre 13, verset 1er. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit : croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens ? Parce qu'ils ont souffert de la sorte. Non ? Je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, bien sûr que non. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alors, les paroles, les réponses de Jésus peuvent paraître dures, choquantes. On pourrait même dire, mais ça manque de compassion. Mais nous allons revoir ça tout à l'heure. Voyons un peu l'histoire. Jésus est là. Il y a des gens qui veulent discuter avec Jésus. Ils entament la conversation sur un fait d'actualité qui s'est passé à l'époque. Et je vais vous remettre là dans le contexte très visuel, parce que nous on lit ça, on dit tiens, mêler le sang, le sacrifice des Galiléens, c'est quoi l'histoire? Les Galiléens, en fait, ce sont des Juifs. Ok? Il nous est dit que ces Galiléens, leur sang a été mêlé à leur sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire? Rappelons-nous qu'à l'époque, les Juifs apportaient au temple leurs sacrifices. D'accord? Donc c'est eux qui sont allés à Jérusalem. Apparemment, ils sont plusieurs. Et pendant qu'ils étaient en train de faire leurs sacrifices, en tout cas les sacrificateurs leur faire pour eux-mêmes, ils étaient là présents. Il paraît que Pilate ait mélangé leur sang. Qu'est-ce que c'est? On connaît Pilate de manière historique. Et on sait que Pilate était un de ces rois violents, sanguinaires. Et il avait coutume, en tant que roi sur cette région, je vous rappelle que c'était un Romain qui était en position de domination sur cette région de Judée. Chaque fois qu'il voyait des gens qui fomentaient un coup d'État ou qui étaient susceptibles de vouloir se liguer contre l'armée romaine, eh ben c'était ce qu'on appelle une exécution punitive. Pilate envoyait ses soldats, et si vous étiez suspecté de vouloir créer un coup d'État, une sédition, de vouloir faire une révolte, il coupait les têtes. Et c'est de cela que les gens voulaient discuter avec Jésus. Tu te rends compte, Jésus ? Ce qui s'est passé la semaine dernière, ces gens qui sont allés à l'église, ils étaient en train de faire leur sacrifice. Et Pilate, les soldats de Pilate sont arrivés et ils les ont égorgés dans l'église, dans le temple. Et leur sang a coulé avec leur sacrifice. N'est-ce pas la même histoire ? J'ai mélangé les deux, vous avez compris, hein ? C'est exactement la même histoire. Maintenant, continuons la conversation. Et voilà que ces gens discutent avec Jésus. Mais tu te rends compte ? Tu te rends compte ce qui s'est passé ? Et là, vous faites abstraction et vous reprenez les mêmes conversations, les mêmes discours que ce que vous entendez à la télé, sur vos lieux de travail, à la radio. Et chacun y va de sa petite phrase. Et là, je nous interroge. Mais quel est l'intérêt de ce genre de conversation ? Franchement, bien sûr, il y a l'étonnement, la surprise, d'accord. Et il y a besoin d'entendre exprimer des choses qui nous étonnent, qui nous bouleversent. Mais nous sommes sur la même terre, nous entendons les mêmes discours, et nous comprenons de temps en temps le sous-entendu de certaines conversations, n'est-ce pas ? Et on sait qu'il y a des partis politiques, des systèmes, qui se servent de ce genre de situation pour communiquer, distiller des façons de penser. Et il est fort probable que parmi les gens qui entouraient Jésus, en lui parlant de ce Pilate qui a fait cette horreur, ils espéraient bien que Jésus réagisse. Ils espéraient bien quand même, toi le Fils de Dieu, tu vas laisser faire ça dans le temple ? Ok, tu fais le là, tu nous donnes la bonne leçon, tu donnes la bonne parole, mais regarde, ouvre les yeux. Et là, tu vas rester insensible, Jésus. Et les gens attendent, ces gens-là attendaient une réaction de Jésus. Et le monde d'aujourd'hui attend aussi une réaction. Il voudrait tellement qu'il puisse y avoir des gens qui commencent à lever le poing, qui commencent à dire hautement ce qu'ils fomentent dans leur cœur. Et on va voir, et d'ailleurs ça se voit, on voit des images de gens qui commencent à être agressifs à l'égard de telle communauté, à l'égard de telle personne. On voit une haine qui monte dans les cœurs, et ces conversations alimentent ce genre de réaction. Faisons attention. Et ayons du discernement, parce que derrière ces conversations, elles ne sont jamais anodines. Elles cherchent toujours à distiller le mépris, la discrimination, la haine, la révolte, la vengeance, le œil pour œil, dent pour dent, le ça suffit. Faisons attention que derrière le sentimentalisme, l'écoute attentive, nous ne laissions pas, en fait, tout simplement laisser ce sentiment, ce sentimentalisme se transformer en mauvais sentiment. Oui, Jésus a compassion. Oui, Jésus nous invite à la compassion, mais Jésus nous invite aussi à la réflexion. Dans cette histoire, Jésus ne s'est pas laissé embarquer. Bien sûr que Jésus ne cautionnait absolument pas l'acte de Pilate, évidemment. Bien sûr que Jésus, en son cœur, souffrait pour ces hommes qui ont été tués de la manière la plus horrible, bien sûr. Mais Jésus ne rentre pas dans leur jeu. Surtout que dans ce genre de conversation, c'est toujours les mêmes questions, les mêmes pourquoi, les mêmes comment. Et même certains vont venir vous dire, mais comment ça se fait si Dieu existait, il ne devrait pas y arriver, ces choses-là. Alors marquez ça dans vos calepins, là. Jean 18, verset 36. Jean 18, verset 36. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mais le Père aurait déjà envoyé des légions d'anges, ne serait-ce que pour me sauver, pour m'éviter la croix. Mais il ne l'a pas fait. Parce que mon royaume n'est pas de ce monde. Évidemment, si on laissait la place à Dieu de régner, alors évidemment les choses se passeraient autrement. Mais Jésus a prévenu. Depuis le jardin d'Éden, où l'homme a fait le choix de la désobéissance, la pollution remplit ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Jean chapitre 14, verset 30. Jean chapitre 14, verset 30. Jésus va dire que le diable est le prince de ce monde. Au-dessus de nos autorités, au-dessus de nos chefs, au-dessus de toutes les institutions, il y a un esprit qui communique et qui est communiqué au monde entier. Et Jésus nous dit que ça, c'est le diable. C'est le diable. Et ne nous étonnons pas que le monde aille de pire en pire. Moi-même, j'ai grandi dans une famille où on m'a toujours appris à dire « Mais tu verras, demain ce sera mieux. Crois en l'homme. L'économie ira mieux. On fait tout. On fait des machines pour que ça aille mieux. On éduque les gens pour que ça aille mieux. On retire la religion pour qu'il n'y ait plus de division. Regarde, on laisse la santé, c'est mieux. Tout est mieux. L'alimentation est mieux. On fait des efforts extraordinaires. Tout est mieux, mon fils. » 40 ans après, même ceux qui me parlaient comme ça sont complètement désespérés. Parce que l'espoir ne peut pas être dans le monde. Parce que le prince de ce monde, c'est le diable. Et plus on laisse de la chance, de la responsabilité, de l'influence au mal, et plus le mal se propage. Tous ceux qui ont un petit bout de jardin se sont aperçus que les mauvaises herbes poussent naturellement, alors que les roses, les tulipes et les autres fleurs d'ornement, si vous ne faites pas, elles ne vont pas venir dans vos jardins. Et si vous ne faites rien, même si vous avez acheté une maison avec un magnifique gazon, avec de beaux ornements floraux, si vous êtes là, vous avez choisi cette maison parce que vous dites « Oh, le jardin, il est magnifique !» Magnifique ! Et que vous commencez à acheter la maison, vous mettez dans le jardin tous les jours, et vous humez ses parfums, vous dites « Oh, c'est magnifique !» Mais si vous ne faites rien, dans un an, votre jardin ressemblera à un jungle. Et malheureusement, les rosiers ne vont pas vaincre les pissenlits. Par contre, le lierre, lui, va vous bouffer votre bel ornement en pierre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les orties et les autres plantes vont se développer et vont étouffer tous les autres plantes qui elles, nécessitent du soin. Le monde est ce jardin. La racine du péché a été semée avec Adam et Ève, et ça prolifère, et ça prolifère, et ça prolifère. Non seulement Dieu a proposé de venir régner dans les cœurs, oui, Jésus a la possibilité de venir habiter dans les cœurs. Jésus a la possibilité de guérir ceux qui sont malades. Jésus a la possibilité de briser la force du péché. Jésus a le pouvoir de redonner de l'amour là où il y a de la haine. Dieu a le pouvoir de donner de l'espoir là où il y a du désespoir. Dieu a le pouvoir de réconcilier, d'apporter la paix, la joie que l'homme n'a jamais goûté. Mais il faut lui ouvrir son cœur parce que c'est dans le cœur qu'il met ça. C'est comme la nuit. Il y a des étoiles qui brillent, mais elles brillent, et chacune brille pour elle-même. Une étoile n'est pas capable de tout éclairer. Parce que le seul qui illumine tout, c'est le soleil de justice, c'est Jésus lui-même. Et nous sommes, nous, dans ces ténèbres. Soyons des lumières. Brillons. Acceptons la lumière de Christ dans notre cœur. Mais effectivement, nous ne changerons pas l'esprit de ce monde qui, lui, comme nous le voyons chaque soir, où une fois que le soleil s'est couché, le ciel devient de plus en plus sombre jusqu'à devenir cette nuit noire, profonde. Le diable règne. Éphésiens chapitre 2, verset 2. C'est Paul encore qui dit que le diable, c'est le prince de la puissance spirituelle qui agit maintenant parmi les hommes qui s'opposent à Dieu. Il y a une action actuelle. Si nous ne sommes pas conscients de la chose, alors nous serons comme tous ces gens qui nous entourent. Mais comment ça se fait? Et Jésus n'a pas voulu rentrer dans cette conversation-là. Mais il leur a dit une chose. Et même il leur pose une question. Comme pour casser toutes ces affirmations que les gens ont, même s'ils ne savent pas, même s'ils n'étaient pas là. Ils savent plein de choses, les gens. Vous savez, c'est incroyable hein, comme les gens savent les choses. Ils savent tout, les gens. Ils savent tout. Ils ont plein d'assurance, plein de convictions. Alors Jésus pose une question. Dites-moi, ces hommes-là, ces Galiléens, ces Judéens, ces hommes, ces femmes qui sont morts, n'étaient-ce pas des pécheurs? C'est la question que Jésus pose. Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que les autres? Dites au fait, le prêtre qui est mort, est-ce que ce n'était pas un pécheur? Les gens qui sont morts dans ces attentats n'étaient-ils pas des pécheurs? On n'y pense jamais à cela. On ne se pose jamais la question. Mais cela veut dire autre chose. C'est que ces gens qui étaient victimes de la folie d'un homme, ces gens qui sont déclarés victimes, sont en fait des coupables. Des coupables devant Dieu. Comme vous, comme moi. Et c'est là que Jésus nous invite, évidemment, à avoir compassion, mais également réflexion. Et quelque part dans la formule que Jésus va dire après, mais vous savez la tour qui est tombée, qui a fait des morts, ça aussi, ça arrive. Les accidents arrivent tous les jours. Je ne sais pas le nom, mais je crois que aujourd'hui, il y a eu de nombreux accidents de la circulation et qui ont fait des morts. Dans les hôpitaux, je suis persuadé qu'il y a eu des morts aujourd'hui. Quand Jésus dit, si vous ne vous repentez, cela vous arrivera de la même. Il n'est pas en train de dire que vous mourrez tous égorgés ou que vous mourrez forcément suite à un accident d'une tour qui vous tombera sur la tête. Bien sûr que non. Mais il est en train de dire, mais ce qui est certain, c'est que tous vous mourrez un jour. Et peut-être de manière rapide, soudaine, sans prévenir. Ceux qui sont morts, qui étaient là au feu d'artifice, est-ce qu'ils ont un instant pensé que ce soir c'était leur dernière soirée? Non. Et bien Jésus dit, ben si vous ne vous repentez, vous allez être pareillement surpris, vous allez être chopé par la mort. Et vous ne serez pas prêts. Repentez-vous, préparez-vous. Car il y a quelque chose de plus important que celui de savoir de comment vous allez mourir. Parce que ce qui est certain, dit Jésus, c'est que vous mourrez tous. Ces victimes étaient des coupables. Ces victimes étaient-elles plus ou moins pécheurs que nous? Bien sûr, c'est un ton un peu ironique, parce qu'il n'y a pas de grands ou de petits péchés. Il y a soit les gens qui vivent avec Jésus, ou il y a ceux qui ne vivent pas avec Jésus.
Et les enfants?
C'est une autre question. Là, Jésus est en train de parler à des hommes responsables, à des gens qui ont la faculté d'analyser les temps, les circonstances. Et à quiconque a la capacité de prendre conscience qu'il est pécheur, il a la nécessité de se repentir. La repentance, c'est notre solution. Comprenons et retenons trois choses de ces événements et de la parole de Jésus. La première, quand Jésus pose la question à ces gens qui étaient en train d'être choqués par les circonstances, il nous explique que nous méritons tous de mourir et nous méritons tous le jugement de Dieu. Tous. Nous méritons tous d'être jugés. Nous sommes tous des pécheurs. Et réalisons que l'exceptionnel dans la vie, l'extraordinaire dans la vie, ce n'est pas de mourir, mais c'est de vivre. Nous, nous vivons et nous considérons la vie comme quelque chose de normal. Mais en fait, c'est pas vrai. Le fait même de vivre, c'est surnaturel. Est-ce qu'on réalise que le fait même de vivre, c'est quelque chose mais d'unique et d'incroyable? Les gens fabriquent des machines, ils essayent de fabriquer des organes, mais ils sont incapables de communiquer la vie. On essaie de fabriquer des faux bras, on essaie de fabriquer des faux muscles, de la fausse peau, on essaie de fabriquer des cœurs artificiels qui fonctionnent comme des vrais, mais l'homme est incapable de communiquer la vie. Le surnaturel, c'est la vie. Tuer, tout le monde sait faire. Arrêter que quelque chose fonctionne, et même ôter la vie, ça on sait faire. Mais communiquer la vie, il n'y a que Dieu. Est-ce que nous sommes conscients que l'extraordinaire, c'est de vivre? Les gens s'étonnent face à la mort, mais on devrait s'étonner chaque jour quand on se réveille le matin. Dire oh, j'ai dit encore. Mais comment ça se fait? Yeah. Est-ce que nous sommes conscients que le fait de vivre, c'est extraordinaire? Il n'y a rien qui... Qu'est-ce qui fait que là vous vivez alors que votre corps pourrait s'arrêter là? L'extraordinaire, c'est la vie. Et c'est ça qu'on doit exploiter. C'est ça qu'on doit réaliser. La mort, c'est normal. La mort, c'est la banalité. Le monde a été voué à la mort. Dieu a créé Adam et Ève pour qu'ils soient éternels. Le jour où ils ont péché, la mort est rentrée dans le monde. Le monde dans lequel nous vivons est un monde de mort. Tout est appelé à disparaître. Tout, regardez tout ce que vous pouvez avoir de matériel. Ça finit par disparaître. Tout disparaît, nous avons disparu. La normalité de notre monde, c'est la mort. Et pourtant, regardez comme tout le système des choses inverse les choses. On exclut la mort de la vie, on les met dans les hôpitaux, dans les ceci, cela, on l'abstract de nos yeux. Et puis quand la mort arrive, oh, mais comment ça se fait? Mais non! Demain, quand vous allez voir vos collègues, lundi, vos collègues travaillent, oh! Mais t'es vivant! Oh, ça c'est une bonne nouvelle! Et vous ouvrez les gros yeux, mais t'es complètement barge là aujourd'hui! Mais si! Oh là 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 là! C'est trop bien que tu sois vivant! T'aurais pu mourir, tu sais! Normalement, tu devais pas vivre, tu sais! Mais t'es complètement zindé, toi! Mais la réalité, elle est là! L'extraordinaire, c'est de vivre! Et Jésus va dire à ces gens: stop, arrêtez de me parler de tel qui sont morts! Repens-toi! Profite de ta vie pour te repentir, profite de ta vie pour vivre, profite de ta vie pour ouvrir les yeux, profite de ta vie pour te rapprocher de Dieu, profite de ta vie pour aimer, profite de ta vie pour construire, profite de ta vie pour te lever, profite de ta vie pour semer quelque chose de bon. Pourquoi est-ce que tu subirais ta vie pour t'étonner du jour de ta mort? Il n'y a aucun sens, ça n'a aucun sens. Mais profite de l'occasion. Imaginez si vous étiez milliardaire et que vous vivriez dans la rue. Mais quoi, mais c'est n'importe quoi. T'es milliardaire, tu te rends compte? Tu pourrais t'acheter une belle maison, vivre tranquillement, faire du bien aux autres. Et bien, il y a des gens, ils vivent leur vie comme ça. Ils ont la vie. Mais ils sont toujours en train de s'apitoyer, de s'abattre, de se plaindre, de regarder ce qui va pas, gna gna. Mais non! Tu vis! Alors sème! Lève-toi! Bats-toi! Réjouis-toi! Communique! Le pire, ce n'est pas de mourir. Le pire, c'est de mourir sans être réconcilié avec Dieu. Oui, mais ces gens, ils ont été décapités, tu te rends compte, c'est horrible. Stop. Si ces gens sont morts réconciliés avec Dieu, là où ils sont beaucoup mieux que dans le temple avec leur sacrifice. Vous rappelez cette histoire de cet homme ? Qui pendant 38 ans, cet homme est resté couché à côté d'une piscine avec plein d'autres malades autour de lui. Déjà, l'hôpital, ça sent pas bon. Alors imaginez un endroit où il n'y a même pas tous les soins qu'il y a comme dans les hôpitaux, où chacun est impotent, difficile, avec les plaies, avec l'hygiène, avec la chaleur, avec l'humidité, la moiteur de l'eau qui se répand. Et tous ces malades qui sont là à côté, peut-être même qui sont en train de se contaminer les uns les autres. Imaginez l'ambiance glauque. Et là, pendant 38 ans, vous vivez dans cette ambiance-là. Personne pour vous aider. Et même quand vous avez une soi-disant espérance que l'eau puisse bouger pour vous plonger dans l'eau en espérant que vous soyez guéri, même ça, vous ne l'avez pas parce que vous dites, mais de toute façon, il n'y a personne pour m'aider. 38 ans de vie. Qui veut vivre cette vie-là? Personne. Quand Jésus guérit cet homme et qu'il le rencontre le lendemain au temple, Jésus va dire à cet homme, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus, tu me dis quoi? De ne pas pêcher parce qu'il pourrait m'arriver pire? Pire que ma vie de chien? Pire que ma vie de chien malade? Pire que ma vie de chien là, à terre où je ne peux même pas bouger une patte? Mais qu'est-ce qu'il y a de pire dans la vie que de rester toute mon existence là, à croupir? Le pire, c'est d'aller mourir en enfer. Ne pêche pas, dit Jésus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Mais cet homme a dû dire, mais qu'est-ce qui peut être pire que ça? Jésus nous invite à la repentance. Oui, mais c'est des attentats. Stop. Ok, des attentats, je suis d'accord. Mais toi, si tu meurs, où tu vas? Oui! Le bus, l'égorgement, les explosions, mais c'est horrible! Oui, c'est horrible! Mais il y a plus horrible que ça! Parce que ce qui est horrible, c'est de visualiser les choses! Mais l'âme va où? L'âme va où? En enfer! C'est quoi l'enfer? Mais c'est l'absence de Dieu! Le paradis, c'est la pleine présence de Dieu! L'enfer, c'est la totale absence de Dieu! Pas de lumière, pas de joie, pas d'amour, pas d'espérance, pas de douceur, pas de grâce, pas de félicité. Rien, rien qui puisse nous consoler, rien qui puisse nous donner de l'espérance. Qui plus est, Jésus a bien dit que l'enfer, c'était pas fait pour les hommes, c'était fait pour les démons, pour le diable. Et toute son armée. Mais évidemment, s'il y a des gens qui suivent la voie du diable, alors ils iront avec lui. Donc non seulement il y a l'absence de tout, l'absence d'espérance, l'absence de lumière, l'amour, l'absence de grâce, l'absence de douceur, mais en plus, il y a l'accompagnement de tous ces esprits mauvais, meurtriers, assassins, moqueurs, violents. C'est pire que la piscine de Bethesda. C'est pire que l'handicap physique. C'est pire que le mépris des hommes. C'est pire que les infections qui font mal au corps. Parce que même celui qui est atteint de la pire maladie reçoit encore quelques miettes d'espérance, de douceur, de sourire. Même si ce n'est pas suffisant pour supporter sa douleur, mais il a encore quelques miettes de quelque chose qui lui fait supporter une journée après l'autre. En enfer, l'espérance n'existe pas. Le réconfort n'existe pas. Le soutien n'existe pas. La repentance n'est pas une anecdote. La repentance n'est pas pour faire plaisir. La repentance n'est pas la confession. Oui, on peut confesser son péché. Oh Seigneur, oh monsieur, ah madame, ah mon ami, si tu sais, tu sais, j'ai pas bien fait, là je suis. C'est bien de confesser, de reconnaître qu'on a mal fait. C'est bien de dire, oh Seigneur, faudrait que je change de caractère quand même, je réagis pas bien. Mais ce que Dieu veut, c'est la repentance. C'est le dégoût de nos mauvais caractères, le dégoût de nos mauvaises réactions, le dégoût de nos mauvaises habitudes, le dégoût de ce qui fait que l'on pêche, que l'on fait du mal à soi-même, que l'on fait du mal aux autres, que l'on fait du mal à ceux que l'on aime, que l'on fait même du mal à Dieu lui-même. Parce que toutes les fois que nous péchons, nous nous faisons du mal à nous-mêmes, nous faisons du mal à ceux qui nous entourent, et nous faisons du mal à Jésus lui-même. Le cœur de de Dieu est blessé quand nous-mêmes nous nous comportons mal. La repentance non seulement nous permet d'être en règle avec Dieu, de trouver un vrai pardon, une vraie réconciliation, un sérieux de relationnel entre lui et nous. Mais en plus, Dieu n'était pas obligé, mais en plus, c'est la porte ouverte vers le ciel. Quiconque se repent et confesse sincèrement à Dieu, non pas seulement du bout des lèvres, mais du fond de ses tripes, son péché, Dieu est capable de le pardonner, de le transformer, de lui communiquer la grâce, l'amour, la joie, la délivrance et même la guérison physique, la guérison psychique, la guérison de l'âme. La restauration est enfin possible entre Dieu et celui qui se repent, le pécheur qui se repent. Alors oui, ne nous étonnons pas. Les ténèbres viennent de plus en plus. Nous entendrons de plus en plus parler de guerre et de bruit de guerre. L'esprit de ce monde fait son travail. Jésus va même dire qu'à un moment, plus personne ne pourra travailler, c'est-à-dire au sens de travailler à communiquer les bonnes choses. Les gens lèveront le poing contre Dieu, tellement la pression sera lourde, tellement l'abomination sera violente. Gardons-nous déjà nous-mêmes de nous habituer à cela. Ne nous abreuvons pas de trop d'images. Ne cherchons pas nous aussi à regarder comment ça s'est passé et qui a fait quoi. Tout ça, c'est de la perte de temps. Prions pour que nous-mêmes nous soyons prêts. Prions pour avoir des paroles qui emmènent des gens au-dessus de tout ce brouhaha, au-dessus de toutes ces conversations vaines. La haine va grandir. Communiquons la paix. Ce n'est pas en refoulant le mal qu'on va y arriver. La solution que Dieu nous a donnée, ce n'est pas refouler le mal, mais c'est de ôter le mal du cœur de l'homme. Ça s'appelle évangéliser. Car le seul remède au mal, c'est le bien de Dieu. Le seul vaccin contre le péché, c'est la croix. La seule solution devant tous ces crimes, devant ces abominations, ce n'est pas le sang des victimes, c'est le sang de Jésus. C'est lui qui a coulé une fois pour toutes pour effacer les péchés du monde entier. C'est lui qui a dit à ceux qui souffraient, venez à moi. C'est à Jésus qu'il faut conduire ceux qui ont besoin de consolation, de vérité, de lumière, de compréhension. Évangélisons, annonçons le message autour de nous. Ne nous laissons pas embarquer dans ces conversations, mais sachons canaliser les conversations. Bien sûr, nous compatissons. Et bien sûr que les gens nous trouveront un peu bizarre à essayer de les amener à réfléchir à leur propre vie. Mais là aussi, il y a une grosse part d'hypocrisie. Parce qu'une fois que les gens se sont estomaqués, étonnés, ils reprennent leur vie comme de normal. Ils ne se remettent pas en cause dans leurs actions, leurs réactions, leurs attitudes. Mais prévenons-les. Ne pas laisser le mal remplir leur cœur. Amen.